Journal présenté par Antoine Maret. Bonsoir.
Bonsoir. L'inquiétude de la communauté internationale après l'arrestation des deux chefs de l'opposition au Venezuela, le pouvoir leur reproche d'avoir voulu fuir leur résidence surveillée. Bruno Le Maire à Rome pour tenter de trouver un accord avec le gouvernement au sujet de la reprise du chantier naval STX. Pour le moment, l'Italie rejette les conditions exigées par la France pour la reprise par Fincantieri. Dans l'actualité française, l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas réussi à se mettre d'accord au sujet du texte de moralisation de la vie politique. C'est cette fameuse réserve parlementaire qui a divisé les sénateurs et les députés. Et puis à la fin de cette édition, nous nous intéresserons à un satellite unique, fruit d'une coopération franco-israélienne. Il prendra des photos à travers le monde pour observer l'évolution de la végétation et comprendre le réchauffement climatique. Décollage prévu ce soir, 18h15, du Grain à Moudre, d'été avec vous, Mélanie Chalandon.
Eh bien, nous reviendrons tout à l'heure sur la dernière passe d'armes entre les États-Unis et la Russie, adoption de nouvelles sanctions côté américain, représailles diplomatiques côté russe, une escalade qui semble envenimer la situation plutôt que de la résoudre. Alors à quoi servent les sanctions contre la Russie? C'est la question dont nous débattrons avec nos invités, Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur associé en géopolitique à l'Institut Thomas More, Florent Parmentier, enseignant à Sciences Po, et Muriel Pomponne, correspondante de RFI à Moscou.
À tout à l'heure, Mélanie. Le Venezuela semble s'enfoncer un peu plus dans un régime autoritaire après les manifestations réprimées dans le sang, après une élection de l'Assemblée constituante très contestée. Voilà maintenant les deux chefs de l'opposition arrêtés selon la Cour suprême. Les deux hommes qui étaient assignés à résidence cherchaient à s'enfuir. Le pouvoir leur reproche également leur déclaration politique. Cette double arrestation n'est pas de nature à calmer les esprits dans les rangs de l'opposition qui a appelé à manifester à nouveau demain. Sur place, le récit de notre envoyée spéciale Sandrine Etorindec.
Ils ont pris Léopoldo López et le maire Ledesma pour nous faire peur et nous démoraliser, a résumé Freddy Guevara, jeune député d'opposition et coordinateur du parti de Léopoldo López, Volonté Populaire. Les deux vidéos des arrestations qui se sont déroulées au beau milieu de la nuit dernière sont partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Léopoldo López et Antonio Ledesma, ce sont les figures de la contestation qui déchirent le pays depuis 4 mois. Ils ont tous les deux appelé à boycotter l'élection de l'Assemblée nationale constituante. Léopoldo López, condamné en 2014 à 14 ans d'emprisonnement, a fait plus de 3 ans et demi derrière les barreaux pour son rôle lors de la vague de contestation en 2014, déjà contre Maduro. Antonio Ledesma, le maire de Caracas, a lui été accusé de corruption et d'association de malfaiteurs. On ne sait pas où les deux hommes ont été emmenés. Ce sont les méthodes des services secrets, selon le fondateur de l'ONG Foro Pénal. Il y a aujourd'hui, dit-il, 615 prisonniers politiques dans le pays.
Bruno Le Maire est à Rome. Le ministre des Finances tente d'arracher un accord à son homologue italien et le ministre du Développement économique au sujet de la reprise du chantier naval STX France. Sauf que pour le moment, le gouvernement italien n'en démord pas. Il a rejeté les conditions exigées par la France pour la reprise par Fincantieri. Bonjour Antonino Gallofaro.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Rome. Rome qui n'a décidément toujours pas digéré la nationalisation provisoire du chantier.
Non, pas du tout. Et la mission du ministre français aujourd'hui est de calmer cette colère italienne. Rome a très mal pris, vous l'avez dit, l'annonce la semaine dernière de nationaliser temporairement les chantiers STX de Saint-Nazaire. Le groupe italien Fincantieri s'était vu promettre dans un accord sous la présidence Hollande une majorité dans l'actionnariat de STX France. Aujourd'hui, le contentieux franco-italien se situe plus au niveau diplomatique et politique qu'économique. Dans cette affaire, il en va, selon les autorités italiennes, de la confiance et du respect réciproque entre les deux pays. Pour cette raison, Rome campe sur sa position. Elle veut toujours au moins 51% du capital de STX. Elle avait donc déjà balayé la proposition de Bruno Le Maire avant même qu'il n'ait pu la présenter aux ministres italiens. Le locataire de Bercy propose un accord 50-50 avec la désignation par Fincantieri de président du conseil d'administration de STX. Le groupe italien aurait donc clairement la direction des chantiers navals selon Bruno Le Maire. L'idée française à terme est de construire un grand groupe industriel franco-italien dans le domaine naval avec une partie civile et une autre militaire. Mais pour cela, il faut d'abord calmer et rassurer l'Italie.
Et à l'instant, justement, on apprend que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a affirmé que la France et l'Italie ont donc signé une déclaration commune pour affirmer qu'elles veulent une coopération navale commune, civile et militaire. Au Kenya, on est à une semaine des élections générales. Le pays va élire son président, mais aussi ses parlementaires, gouverneurs et représentants des assemblées locales. La campagne bat son plein, mais pour les femmes candidates, celle-ci ressemble terriblement à un chemin de croix. Les femmes subissent en effet des menaces, harcèlement, violences physiques et sexuelles. Aucune femme n'est cette année candidate à la présidentielle. Le pays est un enfer pour les femmes politiques. À peine 19% des sièges de l'Assemblée nationale sont occupés par des femmes, et ce grâce seulement à des sièges qui leur sont réservés. Hors quota, la part des femmes à l'Assemblée tombe à 5,5%, l'un des pires scores au monde, loin derrière ses voisins comme l'Éthiopie ou le Rwanda. Et la situation ne va pas en s'améliorant, c'est ce qu'a constaté notre correspondant à Nairobi, Bruno Meyerfeld.
C'est à peine si on les voit. 140 femmes seulement sont candidates cette année au Kenya contre 2400 hommes. Constamment insultées, menacées, elles subissent attouchements sexuels, humiliations publiques et même tentatives de meurtre. Et ce, jusque dans le bidonville de Kibera à Nairobi, comme le raconte l'activiste Jane Odongo.
À Kibera, je connais une candidate qui a subi toutes les pressions imaginables. Pour elle, c'était vraiment atroce. Elle recevait des menaces sur son portable visant sa famille et ses enfants. Elle était directrice d'une école dans le bidonville, c'était sa vie. Ses adversaires n'ont pas hésité à la détruire pour l'intimider.
Au Kenya, la politique est le terrain des hommes. Les candidates sont au pire des ennemis, au mieux des objets de beauté. C'est ce que rappelle la communicante Pamela Mbouria.
Les journalistes posent des questions intimes aux femmes qu'ils ne poseraient jamais à un homme. Du genre, comment faites-vous pour jongler entre la politique et la famille? Ou êtes-vous marié? Ils se permettent des remarques sexistes en direct à la télé comme, oh, vous êtes tellement belle. Récemment, un grand journal a même publié une photo des jambes d'une ministre en première page de son édition.
La présence de femmes ne devrait pas augmenter dans la future assemblée kényane. Pourtant, la constitution impose un tiers de femmes au parlement, mais celle-ci n'a jamais été mise en œuvre, comme le dénonce l'écrivaine Nanjala Nyambola.
La loi sur le genre devrait être appliquée depuis 2015 déjà, donc en clair, depuis 2 ans, ce parlement est inconstitutionnel. Il n'a aucun droit de voter des lois. On voit clairement que le pouvoir judiciaire n'a pas envie de trop embêter les politiques.
Selon l'écrivaine, pas de raison donc d'être optimiste. Le Kenya n'est pas du tout prêt d'avoir une femme présidente.
8 corps ont été retrouvés aujourd'hui en mer Méditerranée sur des embarcations de migrants en provenance de Libye. C'est ce qu'ont indiqué les gardes-côtes italiens. Environ 500 personnes ont été secourues sur 4 embarcations repérées à la dérive. Selon une ONG espagnole qui participe au secours, les morts ont été récupérés par un navire marchand. Dans l'actualité française, l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas réussi ce matin à se mettre d'accord sur un compromis au sujet du texte de moralisation de la vie politique. Le projet de loi organique va donc devoir être examiné en nouvelle lecture jeudi par l'Assemblée, puis par le Sénat et enfin en lecture définitive à l'Assemblée mercredi 9 août, alors que tout le monde anticipait une fin de session ce jeudi. Bonsoir Ilan Malka.
Bonsoir Antoine.
Ce matin, c'est cette fameuse réserve parlementaire qui a divisé sénateurs et députés.
Oui, aucun accord n'a pu être trouvé ce matin au sujet de la réserve parlementaire. Les sénateurs demandent à ce qu'elle ne soit pas supprimée sèchement. Ils estiment que cette somme répond à un véritable besoin local. Le député républicain Daniel Fasquelle, élu dans le Pas-de-Calais, pense la même chose. Il affirme que la majorité fait preuve de fermeture sur cette question. Pour lui, En Marche ne respecte pas son engagement de parti ouvert au débat.
C'est vraiment dommage parce qu'on voulait tourner le dos à la vieille politique où il y avait des oppositions systématiques, où ce qui venait de l'opposition n'était jamais retenu par la majorité, où ce qui venait de la majorité n'est jamais entendu par l'opposition. Malheureusement, En Marche est dans la vieille politique.
Du côté d'En Marche, on reste droit dans ses bottes. On a promis pendant la campagne qu'on supprimerait cette réserve parlementaire. Eh bien, on le fera. Écoutons Audrey Dufeu-Schubert, elle est députée LREM de Loire-Atlantique.
Moi, je poserais la question, pourquoi est-ce que les Républicains sont autant attachés à cette réserve parlementaire? Et là, pour le coup, ça rappelle des événements passés des mois précédents l'élection présidentielle. Donc je pense qu'il n'y a pas de question. Nous, on n'a pas besoin de réserve parlementaire pour pouvoir être proche du terrain.
Alors, c'est une explication qui déplaît même à certains alliés de la majorité. Par exemple, les constructifs, ces députés de droite solidaires avec le gouvernement, n'hésitent pas à dire que si il faut poursuivre les débats sur la réserve parlementaire. Philippe Vigier, par exemple, est député constructif d'Eure-et-Loir.
Il y a des propositions différentes qui venaient du Sénat, qui ont été reprises par la France insoumise, par des communistes, souvent par la Nouvelle Gauche, que nous avons repris au constructif. Le gouvernement a fait sur d'oreille. Ça se discute.
La conséquence de tout cela, c'est donc une prolongation des débats. Les députés prendront leurs vacances, finalement, une semaine plus tard.
Merci Ilan Malka. La justice a validé aujourd'hui le vote sur les statuts de La République En Marche. Ils étaient contestés par des militants qui reprochaient un manque de démocratie dans le parti d'Emmanuel Macron. Mais la consultation devra être prolongée pendant 15 jours. Les plaignants rassemblés au sein du collectif La Démocratie En Marche s'attaquaient au statut en disant s'appuyer sur un vice de forme. Ils réclamaient l'annulation du vote des adhérents sur le texte qui a eu lieu. Le vote des adhérents qui a eu lieu car le parti n'avait pas respecté un délai d'un mois entre la convocation des adhérents et le scrutin. On va y arriver. On vous parle souvent des SDF pendant l'hiver, un peu moins pendant l'été. Et pourtant, la Fédération des acteurs de la solidarité le constate, le nombre d'appels au 115 est en forte augmentation cet été, plus 17% en un an. Et seul un tiers de ces demandes peuvent être satisfaits, car le problème, c'est que les capacités d'accueil sont moins importantes en juillet qu'au mois de décembre. Valentine Joubin, vous vous êtes rendue dans un centre d'accueil de jour géré par Emmaüs Solidarité.
Et l'Agora, c'est son nom, est un lieu chaleureux où les sans-abri peuvent prendre une douche, faire une lessive, voir un médecin et appeler le 115 pour demander un hébergement d'urgence. Il y a encore quelques semaines, c'était l'activité quotidienne de Samy, un Égyptien de 28 ans.
Il faut commencer à 6h du matin pour trouver la place. Si on ne reprend pas le matin, il faut répéter le midi. Si on ne reprend pas, il faut tirer jusqu'à 8h, 9h le soir. Ouais, des fois, j'appelle 40, 30 fois. T'as pas de choix, t'as attaqué ça, sinon tu restes dans la rue.
Plusieurs téléphones cassés de rage et 4 mois d'attente plus tard, Samy a fini par trouver une place dans un foyer où il pourra poser son sac pendant 6 mois. Mais il reste encore beaucoup de jeunes et de familles sans solution. Ils sont même plus nombreux cet été, observe Jérôme Ledu. Il est coordinateur chez Emmaüs Solidarité.
Il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi sur Paris l'été. Des gens qui viennent chercher du travail, des gens qui sont en mouvement, qui essayent un petit peu de se débrouiller à droite à gauche. Donc effectivement, ça fait un petit peu un embouteillage au niveau des demandes de place.
Chaque soir, c'est un SDF sur deux qui est contraint de rester à la rue. Pour François Guéguin, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, cette crise est due à un désengagement de l'État.
L'été, nous avons moins de places. Il y a environ 10 000 places qui ferment entre le mois d'avril, le mois de juillet. C'est un système qui reste tout à fait scandaleux hein, dans son mode de fonctionnement. C'est-à-dire l'idée que en France, en 2017, on continue à héberger les sans-abri seulement l'hiver et puis on les remet à la rue à partir du 31 mars. On est encore au Moyen-Âge. Hein.
Les associations et le SAMU social appellent le gouvernement à mettre fin à cette logique saisonnière et à mobiliser les bâtiments vides et les logements sociaux inoccupés.
Merci à vous, Valentine Joubin. Un satellite unique en son genre va prendre son envol. C'est le fruit d'une coopération franco-israélienne. Le satellite Vénus décolle ce soir de la base spatiale de Kourou en Guyane. Il restera dans l'espace pendant près de 3 ans et il prendra des photos de 110 endroits à travers le monde pour observer l'évolution de la végétation. Pour Gérard Dedieu, ingénieur du CNES, chercheur au CESBIO, mais surtout papa du projet, le but du satellite Vénus, c'est avant tout de nous aider à mieux comprendre les mécanismes du réchauffement climatique.
Ressent-il besoin d'avoir un instrument qui permette de suivre la végétation de manière très fréquente pour des études liées au climat, liées au carbone, liées à l'agriculture par exemple. Sur une mission qui dure 2 ans et demi, on a peu de chances de voir l'évolution de la végétation sous l'influence du climat, parce que le climat, on apprécie son influence sur des périodes de temps beaucoup plus longues, typiquement une trentaine d'années. Donc en fait, ce que va nous permettre Vénus, c'est de mieux comprendre le fonctionnement de la végétation. Et à partir de cette compréhension, les scientifiques vont construire des modèles qui vont décrire les processus physiologiques de la végétation. Et ces modèles-là, qui seront testés sur un nombre important de sites, pourront être ensuite incorporés dans des modèles climatiques beaucoup plus globaux, qui eux vont décrire ce qui se passe à l'échelle de la planète. Le but, c'est d'arriver à reproduire les mesures au sol à partir du modèle piloté par des données satellites. Et sur 2 ans et demi, on a une chance d'avoir des saisons très contrastées. Donc si le modèle est capable de bien reproduire ce qui se passe en termes de flux de carbone échangé, on a plus de chances d'avoir un modèle bien construit et fiable à partir duquel on va pouvoir simuler du changement climatique.
Gérard de Dieu au micro de David Ravier. Demain, on fera dans le cliché avec de la pluie sur la Normandie, la Bretagne et le Nord. Partout ailleurs, du soleil. Les températures iront de 18 degrés à Brest à 32 à Marseille en passant par 26 à Paris. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. Prochain journal à 22h. Il vous sera présenté par Sébastien Berriot.